Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Sa maman tient un salon rue de Cléry. Elle pense qu'il est très important pour la carrière de son mari de recevoir chez elle de beaux esprits. Son mari ? Eh oui, son mari, c'est Jacques Necker, banquier, et qui va devenir ministre de Louis XVI. Ils ont une fille, ce sera leur seul enfant, née le 22 avril 1766, qui se prénomme Anne-Louise Germaine. En fait, on utilisera beaucoup le prénom Germaine. Ses parents, eux, ils l'appellent Minette. À 5 ans, elle est déjà dans le salon de sa maman, à écouter les philosophes ou les savants. Elle va rencontrer comme ça, par exemple, Buffon ou Diderot. Les échanges portent surtout sur la littérature, on fait aussi de la musique. Et Madame Necker a des idées extrêmement précises concernant l'éducation de sa fille. Lui enseigner à sa fille ? Eh bien, écoutez, beaucoup de choses. Hein. Le latin, l'anglais, l'histoire, les mathématiques, la théologie, le clavecin. Et on peut dire une chose d'elle, c'est une surdouée. Pour sa santé, les parents de Louise donc l'installent à la campagne. La campagne, à l'époque, c'est Saint-Ouen, avec gouvernante, bonne et femme de chambre. Un petit mot sur le papa. Jacques Necker, c'est le fils d'un Prussien qui s'est installé à Genève. En 1762, à la mort de son père, Jacques prend la tête d'une maison de commerce qui va devenir une grande banque. Il a aussi la bosse de l'écriture. Par exemple, il a écrit un éloge de Colbert. Et il était si bon que ça lui a valu le prix de l'Académie française. Et puis un autre ouvrage sur la législation et le commerce des grains. Sa politique, lui, si, il défend un libéralisme tempéré par l'intervention de l'État. Alors papa, il donne à sa fille, en plus de toutes les leçons qu'elle a déjà, des leçons d'économie politique. Eh bien, ça portera ses fruits, parce qu'elle saura toujours bien gérer ses affaires. Quand Louise part à Saint-Ouen, son père est devenu directeur général des finances et puis bientôt ministre de Louis XVI. Il veut faire des réformes. Il veut établir un budget, ça s'était jamais fait avant, hein. Seulement ça ne plaît pas à tout le monde. Il finance la participation de la France à quelque chose d'important, hein. C'est la guerre d'indépendance américaine, sans créer d'impôts nouveaux. Là, les gens sont contents. Comment fait-il ? Eh bien, à coup d'emprunt. Et l'emprunt marche très très bien. Et on l'admire beaucoup parce que c'est un monsieur assez désintéressé. Il refuse toute rémunération personnelle pour être ministre, si bien que ça lui vaut tout à fait la sympathie du public. Ajoutez à cela des œuvres de bienfaisance, et ça va vous dire quelque chose, comme la fondation de l'hospice de charité qui va devenir l'hôpital Necker. Peu avant sa démission, il publie un compte-rendu de son administration qui soulève absolument l'enthousiasme. Hélas, les jalousies font qu'il remet sa démission. Eh bien, ce père-là, Germaine l'adule absolument, toute sa vie. En mai 1784, Necker achète le château de Coppet, à quelques lieues de Genève. Il devient baron de Coppet. Germaine grandit, elle aime s'amuser, elle a beaucoup d'esprit, elle a 18 ans. C'est l'âge où les parents marient leur fille. Je dis bien les parents, parce que ce sont uniquement eux qui s'occupent du mariage. Est-ce qu'elle est séduisante, Germaine ? Eh bien, je vais dire oui par le regard et par l'esprit. c'est tout. Mais il faut ajouter qu'elle a une très belle fortune. Elle est fille unique, hein, je vous le rappelle. Donc, il faut trouver un mari protestant. Et oui, la famille est protestante. Alors, ça restreint bien sûr le nombre des prétendants. Hein. Finalement, le choix se porte sur le baron Éric Magnus de Stahl, ou Stahl, ça dépend comment on le prononce, qui est ambassadeur de Suède à Paris. Et Necker, lui, il s'inquiète pour l'avenir, parce que le baron en question est très endetté et il n'a pas de situation stable. Le fait d'être ambassadeur, ça peut être évoqué du jour au lendemain. Alors finalement, le roi de Suède promet d'y pourvoir. À ce moment-là, Necker dresse un contrat de mariage, mais je vous assure, un contrat draconien. Nous sommes le 6 janvier 1786. Le baron a 16 ans de plus que Minette. Il ne l'aime pas, mais elle non plus de toute façon. Germaine est donc présentée à la cour. Son entrée dans le monde lui vaut des appréciations sévères, surtout de la part des ennemis de son père. On se moque de son excès de franchise. Ah oui, ça c'est une qualité, mais ça va être très embêtant pour elle. Elle dit toujours ce qu'elle pense. De son manque de tact et de ses maladresses. Finalement, elle choque. Trop d'assurance, pas assez de civilité, c'est-à-dire finalement pas assez d'hypocrisie. Elle et son mari mènent grande vie, si bien que Necker les sermonne, il dit c'est pas le tout, il y a de l'argent, mais il ne faut pas, quand même pas le jeter par les fenêtres. Alors, elle ne vit pas toujours avec le baron, et parfois, elle part en vacances chez ses parents. À l'automne 1786, Madame de Stahl se découvre enceinte et entend ne rien changer à sa vie. À partir de 1787, la vie politique prend le pas sur les autres préoccupations de Madame de Stahl. Le déficit de l'État est énorme. Quand je dis de l'État, c'est la France. Hein. Les dépenses de la cour sont un véritable tonneau des Danaïdes. Il faut y ajouter les millions qui sont distribués en pension. Alors, Necker part vivre à Château-Renard, puisque Louis XVI ne veut plus de lui. Germaine, alors, part rejoindre ses parents. Elle est enceinte de 7 mois. Les époux s'écrivent. Le baron est horriblement jaloux. Germaine lui parle toujours des vertus sublimes de son père. On ne connaît pas la date exacte de la naissance de la petite fille, qui va s'appeler Gustavine. Alors, pourquoi Gustavine? Eh bien, c'est en l'honneur du roi de Suède qui s'appelle Gustave. Alors elle naît à Paris où ses parents sont revenus. L'accoucheur, c'est le célèbre Jean-Louis Baudeloc, auteur d'un art des accouchements, et un hôpital parisien, bien sûr, va maintenant porter son nom. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Madame de Staël. Elle vient d'être mariée au baron de Staël, un Suédois qui est ambassadeur. Le papa a fait faire un contrat draconien pour que la fortune énorme qu'il possède n'aille pas trop dans les poches du mari. Elle vient d'avoir une petite fille appelée Gustavine, qui est donc à Paris. Et l'accoucheur est quelqu'un d'extrêmement connu, puisqu'il va donner son nom à un hôpital, l'hôpital Baudeloc. Alors la lune de miel qui suit donc la naissance a une durée extrêmement limitée. Aux yeux de Germaine, son mari manque d'esprit. De sa part à lui, ce qui est sûr, c'est qu'il a épousé une dot et qu'il se retrouve avec une femme au physique peu flatteur, mais qui sait charmer et qui préfère la maison de ses parents finalement au domicile conjugal et la compagnie brillante du salon de sa mère à la sienne. Pendant ce temps, les finances françaises vont tellement mal que le roi se décide à rappeler Necker. Germaine est aux anges, mais Necker ne va rien pouvoir faire face aux privilégiés qui ne veulent pas de réforme. On prévoit alors de réunir des États généraux qui sont convoqués pour le mois de mai 1789. Après bien des épreuves de force, le roi ordonne la fusion des trois ordres qui se déclarent assemblée constituante. Necker, lui, a été renvoyé, si bien que le couple part à Bruxelles. Que fait Germaine ? Elle les rejoint. Nous entrons dans la Révolution dont je vous ai déjà longuement parlé lorsque je vous ai raconté la vie de Louis XVI, donc je ne vais pas m'étendre dessus. La relation entre les époux se détériore rapidement. Le baron est toujours jaloux, mais maintenant, c'est avec raison. Parce que Germaine a un amant, le comte de Narbonne, dont d'ailleurs elle va avoir un fils. Un drame aurait pu rapprocher les époux, parce que la petite Gustavine meurt du croup en avril 1789, mais il n'en est rien. Marie file dans la résidence de Coppet. Elle va avoir un petit garçon, Auguste, qui en réalité est le fils de son amant, mais comme elle n'est pas divorcée, eh bien il va aussi porter le nom de Staël. Alors elle est à Coppet chez ses parents, mais en réalité elle s'y ennuie, parce qu'elle voudrait bien revenir à Paris. Elle trouve que les jeunes voix ne sont pas aimables. Alors elle entreprend une correspondance avec Mathieu de Montmorency, ancien combattant de la guerre d'Amérique, avec quelqu'un qui vous est bien connu, Talleyrand. Et puis, en mai 1791, il y a un petit divertissement. Son père sort un nouveau livre sur l'administration de M. Necker par lui-même. Alors, Germaine se lance dans la promotion de l'ouvrage. Elle-même écrit d'ailleurs, pas seulement des lettres, elle publie deux ouvrages. Une tragédie en vers qui s'appelle Jeanne Grey et une comédie qui s'appelle Sophie ou Les sentiments secrets. Alors on peut dire que les tirages sont peu nombreux quand même et réservés surtout aux amis. Elle est tellement entichée de littérature, d'ailleurs que son père l'appelle Madame de Saint-Écritoire. Alors elle se lance dans une tragédie historique en vers qui va s'appeler Montmorency. Le héros c'est Henri II, duc de Montmorency, qui a été décapité sur l'ordre de Richelieu en 1632. Elle revient à Paris. Elle veut y jouer absolument un rôle politique. Alors elle prend fait et cause pour le parti modéré. Elle écrit dans le journal Les Indépendants et elle y expose ses idées. Pour elle, la révolution doit être raisonnable et la monarchie doit être constitutionnelle. Elle précise que ce n'est pas parce qu'on est modéré qu'on est faible psychologiquement. Elle est une grande admiratrice de Montesquieu. D'ailleurs, quand on la lit, ça n'est pas sans rappeler le style de Montesquieu. Elle reçoit dans son salon de la rue du Bac, où on lui rapporte les insultes que lui prodiguent les aristocrates. Alors elle repart à Coppet, puis revient à Paris. Elle voyagera beaucoup. La grande question est: que vont faire les puissances étrangères face au rassemblement des émigrés qui menacent la France d'une guerre qui permettrait de rétablir l'ancien régime. Madame de Staël est contre cette guerre, car, dit-elle, l'état de l'armée française est alarmant. Eh ben, il y a qu'elle qui s'en rend compte. Non, tout de même pas. Il n'y a plus de commandement. Pourquoi donc? Ben forcément, tous ceux qui commandaient, ce sont des aristocrates, ils sont partis en émigration. Alors, qui s'affaire à la réorganisation de l'armée? Eh bien, c'est Narbonne, figurez-vous, l'amant de Germaine, qui a réussi à se faire nommer ministre de la guerre. Il a bien du mal à cause du manque d'unité du gouvernement. Le 24 février 1792, il lit au Conseil un mémoire qui a été largement inspiré par Madame de Staël, où il appelle à un sursaut contre les dangers des extrêmes. À la suite des journées agitées des mois d'août et des massacres de septembre, Germaine dit quand même que c'est un peu trop, elle quitte Paris. Elle arrive à Coppet le 7 septembre. Son amant, lui, est en fuite, en Angleterre. Son mari a quitté son ambassade pour la Suède. Ses amis modérés se cachent ou sont en prison. Eh bien, c'est un long exil qui commence. Et elle est enceinte. Elle attend les lettres de Narbonne. Les lettres de Narbonne, elles sont plutôt rares. Elle partirait bien pour l'Angleterre, où lui s'est réfugié. Mais ses parents la semoncent. Sa mère, l'évangile à la main, déprécie Narbonne et elle dit « c'est un bellâtre absolument ingrat ». Et son père, lui, a peur que si elle accouche auprès de Narbonne, on ne devine pas que c'est lui le père. Quant à elle, elle voudrait divorcer. Mais elle se dit que son mari pourrait bien à ce moment-là désavouer son enfant. Eh bien alors, attendons. Le 20 novembre, Madame de Staël accouche de son second fils, Albert. Neuf mois et demi après la séparation avec son mari, les gens qui savent compter en déduiront ce qu'ils veulent. Celui-ci, il feint de n'être pas surpris, il ferme les yeux. Pourquoi donc? Vous avez bien deviné, hein? Parce que s'il divorçait, adieu l'argent. Alors le petit est baptisé sous le nom d'Albert, fils d'Éric Magnus, baron de Staël de Holstein. Et Germaine veut partir pour la Grande-Bretagne. En fait, elle arrive en France, elle confie ses deux enfants à ses parents et elle s'embarque à Boulogne-sur-Mer pour Douvres. Elle rejoint Narbonne dans sa résidence du Surrey. Narbonne, il fait une drôle de tête de la voir arriver. Elle fréquente la gentry anglaise, horrifiée par le tour violent pris par la Révolution française et surtout par l'exécution du roi. Ça n'empêche pas Germaine d'écrire « Ce sera de l'influence des passions » qui sera publiée en 1796. Et elle pense que non, décidément, elle ne va pas rester en Angleterre, elle va revenir en Suisse. Alors elle embarque à Douvres le 26 mai. Narbonne promet de la rejoindre dès qu'il le pourra. Ouais. Germaine débarque à Ostende, traverse la Belgique, passe en Allemagne, puis arrive à Bâle. Et vers le 10 juin, qui arrive à Bâle? Eh bien, le baron de Staël. Ils ne se sont pas vus depuis 17 mois. Et qu'un cas, ils reprennent la vie commune. Elle attend avec impatience des lettres de Narbonne, qui arrive au compte-gouttes. En vérité, il cherche tous les prétextes pour rester en Angleterre. Elle écrit des lettres rageuses, pleines d'invectives, de cris d'indignation, d'amour, mais de haine aussi, et des supplications. Sa passion amoureuse n'empêche pas Madame de Staël de s'intéresser quand même aux événements qui embrasent la France et l'Europe à ce moment-là. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Madame de Staël, qui pour l'instant est en Suisse, qui vient d'accoucher d'un deuxième garçon qui n'est pas de son mari, mais de son amant. Et elle vient d'écrire un livre assez intéressant sur les passions qui influencent la réflexion des gens. Et elle s'intéresse beaucoup à la politique, comme toujours, et surtout aux événements qui embrasent la France et l'Europe à ce moment-là. Si bien que ça donne lieu à un nouveau livre qui s'appelle « Les considérations sur la Révolution française ». Elle déploie son énergie pour venir en aide à ses amis qui sont traqués. Elle trouve une maison en Suisse, par exemple, pour les abriter. Mais se posent alors des problèmes financiers, parce que Necker a prêté 2 millions à la France. Et jusqu'à maintenant, il en recevait les intérêts, mais c'est tout. Et voilà que la Révolution suspend les intérêts. Alors elle écrit « Comment ne serais-je pas malheureuse de perdre ma fortune ?» C'est pas qu'elle soit avide, c'est pas vrai, mais d'ailleurs elle est tout à fait prodigue, et prodigue d'ailleurs envers ses amis. Seulement elle est riche de naissance, elle a été habituée à un train de vie princier, et elle ne se voit pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Et puis elle éprouve un sentiment d'injustice devant la manière dont on traite son père. En février 1794, Madame de Staël part à Lausanne rendre visite à sa mère, qui est très malade. Sa mère s'éteint le 15 mai. En attendant, puisque Narbonne ne l'aime plus, elle est libre. Eh bien alors, elle ne met pas longtemps à s'éprendre d'un beau et grand Suédois qui s'appelle Adolphe Louis Comte Ribbing. Il est pénétré de culture française. Jamaine trouve pour lui une location à 3 km de chez elle. Et puis tant qu'à faire, puisque son amant a une mère dont il ne sait pas quoi faire, eh bien elle dit que sa mère vienne aussi. Tous deux envisagent de s'établir ailleurs, en particulier au Danemark. Le 7 septembre, Ribbing part au Danemark et il promet de revenir avant 6 mois. Eh bien, je vais vous dire, l'histoire se répète. Alors quand même, ça n'empêche pas de vivre, Germaine. Elle s'occupe de ses deux fils, de son père qui se morfond dans son veuvage et des amis français qu'elle protège. Décidément, eh bien, le comte Ribbing ne viendra pas. Elle lui écrit qu'elle vient de faire, alors pour le rendre jaloux bien sûr, la connaissance d'un homme de beaucoup d'esprit qui s'appelle Benjamin Constant. Elle dit qu'il a beaucoup d'esprit mais que franchement il est disgracieux. Il est divorcé d'une aristocrate allemande et il tombe amoureux de Germaine qui pour l'instant, elle, ne s'occupe que de Ribbing. Pour Constant, Madame de Staël, c'est un être à part, un être supérieur tel qu'il ne s'en rencontre peut-être qu'un par siècle. Tout en continuant à abreuver Ribbing de lettres désespérées, Germaine rédige une brochure qui s'appelle « Réflexion sur la paix » adressée à M. Pitt, qui est donc un ministre anglais, et aux Français, un plaidoyer en faveur de la paix générale en Europe. C'est une brochure qui paraît en février 1795. Mais la guerre continue en effet entre la France et la coalition qui est dirigée par l'Angleterre. La brochure, elle est quand même intéressante, cette brochure, parce qu'elle est citée à deux reprises par Charles Fox, qui est chef de l'opposition en Angleterre. « Il n'en connaît pas l'auteur, dit-il, mais il pense qu'il faut faire la paix. » Germaine alors veut revenir à Paris, d'abord parce qu'elle veut récupérer l'argent de son père, et ensuite elle veut y tenir un salon. Pourquoi ? Eh bien pour y jouer un rôle politique. Le 16 mai 1795, elle part donc pour la France dans sa berline. Qu'est-ce qu'il y a avec elle ? Benjamin Constant. Ils arrivent à Paris. Germaine alors rouvre son salon, où viennent des membres du gouvernement de la Convention, des nobles qui sont revenus d'exil, des écrivains, des diplomates. La grande question à l'ordre du jour, c'est le projet de la nouvelle Constitution. Elle est votée le 5 fructidor, si je vous traduis, c'est le 22 août 1795. Madame de Staël approuve le bicamérisme. En effet, il y a deux chambres. En effet, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Elle écrit alors « Réflexion sur la paix intérieure ». Et on peut dire qu'il y a un contraste de style énorme entre les textes politiques qu'elle écrit, vraiment une écriture ferme, classique, je vous ai déjà dit, à la Montesquieu. Et puis le ton des lettres amoureuses qu'elle envoie à Ribbing, par exemple, le dernier là, tout à fait exalté, pleine de flamme. La personnalité de Germaine de Sales n'est pas faite d'un bloc, finalement. Elle est à la fois philosophe, politique, mais tragédienne en amour. Elle reste en France 7 mois, 7 mois qui sont marqués pour ces deux ambitieux que sont Madame de Sales et Benjamin Constant, marqués par des intrigues politiques. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Lui, il voudrait prétendre jouer un rôle au sommet de l'État, puisque l'État est devenu républicain et gouverné par ce qu'on appelle à l'époque le directoire, c'est-à-dire 5 personnes qui sont gouverneurs à la fois. Elle ne peut exercer qu'un rôle d'influence. Elle reste à Paris encore secouée par des émeutes. Elle revient en Suisse pour voir son père et se mettre à l'abri des mouvements parisiens et du gouvernement qui n'apprécie pas l'agitation de Germaine en faveur de ses amis. Benjamin Constant est revenu avec elle. Tandis qu'elle attend toujours la venue de Ribbing, on peut dire qu'elle peut compter sur la présence fervente de Benjamin, avec lequel elle entretient une véritable complicité, complicité d'esprit, qui fait que finalement, c'est une amitié extrêmement profonde. Je vais ajouter pour l'instant. Elle attend Ribbing. Bon, vous avez deviné que bien sûr, il ne vient pas. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, de Madame de Valence. Alors voilà Germaine au désespoir. Seulement, cela, ça l'empêche pas d'aller au bal avec Adrien Demain ou avec Hippolyte Terray. C'est surtout auprès de Benjamin Constant qu'elle puise des raisons de survivre. Son admiration pour lui ne fait que grandir et l'attachement qu'il lui manifeste font que finalement, ben ça devait arriver, ils deviennent amants. Il lui plaît par une autre voie que son vilain physique, dit-elle. Il est merveilleusement intelligent, on ne s'ennuie pas avec lui. Elle éprouve avec lui des affinités intellectuelles et politiques. Ils s'entendent à mots couverts et réagissent à l'unisson. Tous les deux aspirent à être des citoyens français de cette République gouvernée par un directoire qui, pense-t-on, annonce une période de stabilité. Ouais. Et le début d'une ère de liberté. Je redis ouais. Ils n'ont pas encore acquis la nationalité française. Ce sera fait lorsque la France annexera l'enclave de Genève en avril 1798. Benjamin repart à Paris, Madame de Sales compte le rejoindre et voilà qu'elle apprend une décision du directoire. Elle sera mise en arrestation si elle se rend sur le territoire français. Alors on se demande bien pourquoi, enfin, en tout cas elle se le demande. Eh bien on lui reproche d'être en correspondance avec des émigrés, des conspirateurs et les plus grands ennemis de la République. Elle est accusée de vouloir revenir en France pour y fomenter des troubles. Elle se proclame républicaine, mais on lui dit « Et cependant, vous ne cessez pas de réunir vos amis qui sont royalistes. » Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est épiée depuis longtemps. Et elle continue de l'être, même quand elle est en Suisse. Elle reste donc en Suisse et s'installe à Ouchy avec Benjamin. Et qui se présente alors ? Monsieur de Sales qui ressurgit. Pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il est perdu de dettes. Il vient chercher des sous. Le séjour est bref. Le 8 juin 1797, Germaine met au monde une fille, Albertine. Le rapprochement entre les deux époux permet à l'enfant d'être présenté comme la fille de Monsieur de Sales, qui du reste ne démentira pas sa paternité. Bref, pour les uns, Albertine sera la fille d'Éric Magnus de Sales, et puis pour les autres, celle de Benjamin Constant, et bien figurez-vous qu'on n'en saura pas plus. Thank you. Pendant son séjour ensuite, Madame de Staël emploie ses loisirs à écrire la première de ses œuvres importantes qui lui ouvre la carrière des lettres, qui s'appelle « De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations ». La clé d'ouvrage, c'est de démontrer l'incompatibilité de la passion et du bonheur. Comme La Bruyère, elle met en scène des modèles inventés. L'ouvrage est publié en octobre 1796. Benjamin et Germaine sont bien décidés alors à s'installer en France. Lui, il a acheté une ancienne abbaye à Érivaux, c'est près de Luzarches, à une dizaine de kilomètres de Chantilly. Et elle, elle a acquis une propriété près de Dourdan. Mais le directoire n'est pas revenu sur sa décision. Rentrer en France, c'est dangereux. Eh bien, ça ne fait rien. Ils y partent tous les deux. Germaine confie ses enfants à son père. Benjamin et elle passent la frontière. Le 18 janvier 1797, ils s'installent à Érivaux, donc chez Benjamin, dans l'attente d'une décision du directoire. Après sa situation personnelle, la situation politique de la France, c'est l'objet principal des idées qu'elle partage avec Benjamin Constant. La France est toujours en guerre contre l'Autriche et l'Angleterre. À l'Est, l'armée française est contenue sur le Rhin, mais en Italie, où il doit faire diversion, le général Bonaparte remporte victoire sur victoire face aux Autrichiens, aux Piémontais et au roi de Sardaigne. Après la capitulation de Mantoue, Bonaparte marche sur Vienne à travers les Alpes. Et que croyez-vous qu'il fasse ? Eh bien, il traite directement avec l'Autriche en mettant le directoire devant le fait accompli. En octobre 1797, maître de l'Italie, Bonaparte cède Venise à l'Autriche et crée carrément une république cisalpine, ça correspond à peu près à la Lombardie, puis une république ligurienne, ça correspond à Gênes. La montée en puissance de Bonaparte et de l'armée, c'est un sujet d'inquiétude. Mais, dit le directoire, tout à fait, c'est-à-dire que les cinq directeurs, dont le principal est M. Barras, ils ont besoin finalement de sa renommée, parce qu'ils se proclament les républicains, pour l'instant, j'ajoute, et puis de son appui. Alors il pourrait se révéler précieux face au danger d'un complot, par exemple, anglo-royaliste. Pendant ce temps, Benjamin Constant publie un essai qui s'appelle « Des réactions politiques ». Il pense que la grande affaire, c'est la conquête de l'opinion. Il redit qu'il y a des bases auxquelles on ne peut pas toucher. Alors, quelles sont ces bases ? Eh bien, d'abord, une représentation nationale par deux chambres. L'absence d'un roi, l'abolition de la noblesse, l'indépendance des tribunaux, l'inviolabilité de la propriété, ça c'est important, et l'assurance de ne pas être détenu arbitrairement. Quand le public lit cet ouvrage, il est absolument enchanté. C'est exactement toutes les idées qui circulent à l'époque. Tout cela a été rédigé dans l'ombre de Madame de Staël, qui se charge de défendre ces idées-là auprès de ses amis restés des royalistes constitutionnels. Dans tout ça, ça se passe évidemment dans son salon. Elle se démène toujours d'ailleurs pour ses amis qui sont restés des royalistes constitutionnels. Et elle espère auprès des hommes au pouvoir une intervention de Benjamin Constant pour que ces gens-là ne soient plus poursuivis. Ses efforts sont récompensés en faveur de son vieil ami, par exemple Talleyrand, qu'elle a déjà réussi à faire revenir d'Amérique et qui est nommé ministre des Relations extérieures le 16 juillet 1797. Elle contribue à créer le cercle constitutionnel dont le but est de soutenir le gouvernement républicain du directoire. Le résultat, c'est qu'elle est abreuvée d'injures, évidemment, par les journaux royalistes. L'événement le plus marquant à la fin de l'année 1797, c'est la rencontre de Germaine de Staël avec le général Bonaparte. Alors ça vaut la peine. Donc, Bonaparte, à l'époque, a 28 ans. On le tient pour un homme des Lumières. Il cache à merveille ses ambitions. Ils passent pour, j'insiste bien, ils passent pour désintéressés, sobres, simples et sages. Madame de Sales, qui aime les grands hommes et la gloire, s'est absolument entichée de lui. Elle lui a même écrit son admiration. Et elle va le rencontrer chez Talleyrand. Bonaparte, dont le flair n'est pas la moindre qualité, a l'intention, je précise à ce moment-là, de ménager Madame de Sales, dont la réputation d'intrigue, d'intelligence et le réseau d'amis et d'alliés, ça fait quand même une force à ses objectifs. Et Germaine, qui découvre-t-elle ? Un petit homme, au visage blafard, fatigué, mais aux yeux brûlants. Elle reste interdite devant la froide politesse qu'il lui manifeste. Il n'appartient à aucun milieu qu'elle connaît. Eh bien, on peut dire que le coup de foudre n'a pas lieu. Mais Germaine ne se laisse pas abattre. Elle invite donc Bonaparte à un bal. Il ne vient pas. Elle lui fait des approches. Il recule. Pour lui, cette femme est trop accaparante. Il suspecte chez elle une ambition qui pourrait bien gêner la sienne. En tout cas, la situation politique est critique, la guerre continue, la politique impérialiste du directoire a provoqué la formation d'une coalition entre l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et le roi de Naples. Les armées françaises subissent revers sur revers. Et pendant ce temps, Bonaparte, lui, il est en Égypte. Il apprend que le directoire est en mauvaise fortune, en mauvaise posture, pardon. Sur les 5 directeurs, 4 ont été démissionnés. Il ne reste plus que Barras. Alors Bonaparte dit, il faut vraiment que j'agisse. Il décide de rentrer. Il débarque à Fréjus. Germaine dit que c'est un grand événement. Elle écrit que sa destinée est invincible. Et elle ajoute même, la République est sauvée. Elle va pas bien claire, Germaine. Le 18 Brumaire, elle apprend que Barras vient de démissionner. Il n'y a plus de directoire. Alors un nom revient sur toutes les lèvres. Bonaparte. Germaine veut croire en lui. Elle veut croire qu'il est vraiment un républicain convaincu. Et elle ne voit pas le coup venir. Nous retrouverons Madame de Sales la semaine prochaine. Au revoir à tous.